Midas, un âne en or. Dionysos offre à Midas, roi de Phrygie, un vœu. Tout ce qu'il touche sera transformé en or. Le dieu accomplit ce vœu, et si Midas est d'abord enchanté, il déchante vite. Il ne peut ni boire ni manger, tout devient or entre ses mains ou sur ses lèvres. Menacé de mourir de faim et de soif, le roi supplie le dieu qui le débarrasse du vœu par un bain dans la rivière Pactole. Depuis, celle-ci charrie de la poussière d'or. Mais Midas n'est pas pour autant guéri de se mêler des affaires des dieux. Peu après, il est amené à juger entre le dieu Pan, dieu des pâturages et des troupeaux, joueur de syrinx, flûte de roseau à sept tuyaux, et Apollon, dieu des arts, incomparable joueur de lyre. La supériorité d'Apollon est écrasante, mais Midas en tient pour Pan et s'exclame « Pan chante 100 fois mieux ». Je préfère son talent, et puisque je le préfère, c'est qu'il doit être le meilleur. Croyez-vous que je n'ai pas d'oreilles ? Insulté, Apollon s'approche du roi et lui étire les oreilles qui s'allongent et se couvrent de poils. Depuis, Midas a des oreilles d'âne. Dédale et Icare. Dédale est un architecte de génie. Mais il doit fuir la Grèce à la suite du meurtre de son neveu qu'il a assassiné alors que celui-ci promettait de le surpasser en talent. Réfugié avec son fils Icare auprès du roi de Crète, Minos, il construit le labyrinthe dans lequel est enfermé le Minotaure. Mais Minos ne le laisse pas repartir en Grèce. Ingénieur autant qu'architecte, Dédale réalise des ailes de bois et de plumes collées par de la cire afin de quitter l'île de Crète. L'évasion a bien lieu, mais le jeune Icare ne suit pas les sages conseils de son père et s'approche trop du soleil. La cire fond et l'adolescent est précipité dans la mer où il se noie. Brisé, Dédale finit ses jours en Sicile, architecte renommé, mais écrasé de chagrin. Achille, ton talon te perdra. Achille est le fils d'un mortel, le roi Pélée, et d'une Néréide, une divinité des eaux de mer, Thétis. Sa mère connaît son avenir de glorieux guerrier et, pour le protéger, plonge l'enfant dans les eaux du Styx afin de le rendre invulnérable. Mais elle le tient par le talon, seul endroit du corps où Achille peut être blessé à mort. Il se couvre de gloire à Troie, tue Hector et venge son ami Patrocle. 3 jours après, au cours d'un combat, Paris, le frère d'Hector, lui décoche une flèche dans le talon et le tue. Depuis, le talon d'Achille désigne la faiblesse cachée de quelqu'un. Œdipe et le Sphinx. À Thèbes, le roi Laios et la reine Jocaste désespèrent d'avoir un enfant. Interrogé par le roi, l'oracle de Delphes prédit une issue funeste. Il aura bien un fils, mais celui-ci le tuera. Il est alors prévu que le jeune prince sera abandonné dans la forêt pour y être dévoré par les bêtes. Cependant, le berger chargé de la besogne ne peut s'y résoudre et le confie à un ami qui lui donne pour nom Œdipe. Adopté par le roi de Corinthe, lui aussi sans enfant, Œdipe connaît une jeunesse heureuse jusqu'au jour où, au cours d'un banquet, un ivrogne lui révèle le terrible secret. Non seulement il tuera son père, mais il épousera sa mère. Pour échapper à son destin, Œdipe fuit Corinthe. En route pour Thèbes, il se querelle avec un vieillard et le tue sans savoir qu'il s'agit de son vrai père, Laios. La première partie de la prophétie est réalisée. À Thèbes, la ville est terrorisée par le sphinx, lion ailé à tête de femme. Perché sur un rocher à l'entrée, il pose la même énigme à tous les voyageurs qui se trompent et sont dévorés. Le matin, il a une tête et 4 jambes, à midi il n'en a plus que 2, et le soir il en a 3. Plus il a de jambes, moins il a de force. Mais Œdipe l'affronte et lui répond « c'est l'homme ». Enfant, il marche à 4 pattes, adulte sur ses 2 jambes, vieillard avec un bâton qui le soutient. Hurlant de rage, le sphinx se jette dans un abîme proche. En récompense d'avoir débarrassé Thèbes du sphinx, Œdipe peut épouser Jocaste. Quand tous 2 apprennent qu'ils sont mère et fils, Jocaste se pend et Œdipe se crève les yeux. Puis il quitte la cité, erre en Grèce jusqu'au moment où, près d'Athènes, il trouve la porte d'entrée des enfers et la franchit pour ne plus en revenir. Sigmund Freud baptisera « complexe d'Œdipe » l'amour d'un fils pour sa mère qui ne présente plus rien de filial. Jason et la toison d'or. Encore enfant, Jason, fils du roi d'Iolcos, est écarté du trône par son oncle Pélias. Ce dernier consent à lui rendre la couronne s'il parvient à conquérir la toison d'or, fourrure en or d'un bélier suspendu dans un bois en Colchide. Jason se lance dans l'aventure après avoir construit le navire Argo, le rapide, et recruté des amis fidèles, les Argonautes. Hercule, Thésée et Orphée. Après de multiples embûches, ils parviennent en Colchide, pays du roi Aïétès. Ce dernier promet à Jason la toison d'or s'il accomplit deux exploits. Dompter deux taureaux furieux et les forcer à s'atteler pour labourer un champ, dans les sillons planter des dents de dragon qui germent aussitôt pour laisser pousser des guerriers en armes qu'il faudra vaincre. Jason n'aurait aucune chance sans l'aide de Médée, la fille du roi qui s'était prise de lui. Magicienne, elle confectionne un onguent magique qui fait disparaître douleurs et blessures. Il dompte les taureaux, laboure, sème et extermine l'armée née des sillons. Puis, Médée endort le dragon, gardien de la toison dont peut alors s'emparer Jason. Il revient avec Médée, mais n'ayant plus besoin d'elle, et en dépit de leurs enfants, en épouse une autre. Médée, folle de rage, empoisonne sa rivale, tue ses propres enfants et disparaît sur un char ailé. Jason passera le reste de sa vie à regretter son inconstance.
N'oubliez pas, l'ordre de la toison d'or. Ordre chevaleresque, il est fondé par le duc de Bourgogne, grand-duc d'Occident, Philippe le Bon, pour accompagner les célébrations de son mariage avec l'infante Isabelle du Portugal, à Bruges, le 10 janvier 1430. Le but de l'ordre est la défense de la religion chrétienne et l'exaltation de la gloire de Dieu. Il est placé sous le patronage de saint André. Les chevaliers, à l'origine 24, sont ensuite 50. Ils arborent tous le collier de la toison d'or, lourd collier de motif d'or, au centre duquel pend la dépouille d'or du bélier. De la maison de Bourgogne, il est passé aux Habsbourg, régnant en Espagne, aux Pays-Bas, en Autriche. Aujourd'hui encore, le roi d'Espagne est le grand maître de l'ordre de la toison d'or, dont le trésor est conservé à Vienne, en Autriche. La langue officielle de l'ordre est toujours le français.
Rome. Si Rome s'est inspirée de la Grèce, elle n'en est pas la pâle copie. Ses inventions propres sont nombreuses et conditionnent encore notre vie de tous les jours. Le droit, les institutions, la vie du citoyen, les routes, les aqueducs, les théâtres, jeux et sports sont autant de fondations essentielles. Dans cette partie de chapitre, vous allez retrouver l'histoire d'une ville et de son empire, et tous ses legs qui sont devenus les nôtres. 21 avril 753 avant Jésus-Christ, enfin Rome vint. Selon l'Énéide de Virgile, 70-19 avant Jésus-Christ, poète des origines légendaires de Rome, c'est ce jour-là que Rome est fondée. Ce long poème chante la gloire d'Énée, l'un des rares hommes de Troie à avoir pu s'échapper de la ville après sa chute. Il se serait réfugié dans la région de la future Rome et serait l'ancêtre glorieux du peuple romain, descendant lui-même de Vénus. Romulus et Rémus sont des lointains descendants. Frères jumeaux, ils sont abandonnés dans les bois pour y mourir de faim ou être dévorés. Une louve et ses petits vient à passer, les adopte et les nourrit comme ses propres louveteaux. Adultes, c'est sur le lieu même où la louve les a trouvés qu'ils vont fonder une ville. Pour savoir lequel la fondera, chacun se perche sur une colline. L'Aventin pour Rémus, le Palatin pour Romulus. Et ils attendent un signe des dieux. Rémus aperçoit 6 vautours, mais Romulus 12. Il fondera la ville. Pour la délimiter, il trace avec une charrue un sillon qui en détermine le périmètre. Par provocation, Rémus saute par-dessus le sillon, pourtant limite sacrée et inviolable. Son frère Romulus le tue aussitôt.
Le saviez-vous? Un meurtre, c'est assez. Le meurtre de Rémus par Romulus aurait dû être le dernier. Pour les Romains, l'enceinte sacrée qui délimite Rome, le Promeorium, ne doit plus jamais voir couler le sang. Les soldats doivent déposer les armes avant de le franchir et rentrer dans la ville. Rome est la ville, avec majuscule. Aucune autre ne peut lui être comparée. Et ce, sous peine de mort. La peine est aussi appliquée à tout citoyen qui rentrerait avec des armes. Mais ne rêvons pas. Bagarres, révoltes, assassinats politiques ont bel et bien eu lieu, tout comme les meurtres crapuleux. Les auteurs étaient simplement prudents. Ils cachaient soigneusement leurs armes avant de rentrer pour mieux s'en servir ensuite.
Mythe fondateur de Rome. Rendu célèbre par les tableaux de Nicolas Poussin et de Jacques-Louis David, l'enlèvement des Sabines relate l'épisode où les soldats qui peuplent Rome manquent de femmes et, invitant les Sabines à une fête, se jettent sur elles et s'en emparent au cri de « pas les vieilles ». Cela déclenche un combat entre Romains et Sabins au cours duquel elles s'interposent, les contraignant à conclure la paix. Éphémère car au cours d'un combat, Tarpeia, jeune Romaine avide, trahit les siens et ouvre les portes de Rome aux Sabins qui assiégeaient le Capitole. Pour prix de sa trahison, elle a demandé ce que les Sabins portent au bras gauche, de lourds bracelets d'or. Ils paient leur dette, l'écrasant au passage sous le poids de leurs boucliers qu'ils portent également à gauche. À Rome, la roche tarpéienne du nom de la jeune fille est le lieu des exécutions pour ceux qui sont condamnés à être jetés dans le vide. Comme elle se trouve à côté du centre du pouvoir, le Capitole, les Romains en tirent une maxime que nous utilisons toujours. La roche tarpéienne est proche du Capitole. C'est un avertissement à tous ceux que le pouvoir ou le succès grise, afin qu'ils sachent qu'ils peuvent à tout moment tout perdre et retourner au néant. Une légende revue par l'histoire. 753 marque arbitrairement la date de la fondation de la ville. Le nom des fondateurs, Romulus et de son frère Rémus, sont des dérivés du nom étrusque patronymique Ruma. Sous le règne de Romulus se situe l'enlèvement des Sabines. Il donne à Rome ses premières lois puis disparaît mystérieusement dans un épais nuage lors d'un rassemblement sur le champ de Mars. Lui succède Numa Pompilius, roi pacifique et pieux, considéré comme l'organisateur de la religion selon la légende. Sous le règne de Tullius Hostilius, le guerrier, ont lieu le combat des Horaces et des Curias et la destruction d'Albe. Ancus Martius, le bâtisseur, construit Ostie et le port de Rome. Tarquin l'Ancien introduit la civilisation étrusque. Servius Tullius construit l'enceinte entourant les sept collines, organise et administre Rome, recense son armée. Tarquin le Superbe poursuit les grands travaux, mais se conduit en tyran. Il fait construire le temple de Jupiter, Junon et Minerve sur la colline du Capitole et le grand égout, la Cloaca Maxima. Brutus le chasse en 509 et c'est la fin de la royauté à Rome vers 508 selon l'historien grec Polybe de Mégapolis qui meurt en 120 avant Jésus-Christ.
Le saviez-vous? Les Étrusques. Les Étrusques sont des peuples d'origine asiatique qui, poussés par la famine, auraient quitté la Lydie, selon Hérodote, vraisemblablement à la suite des mouvements de population qui marquent la fin du quatrième millénaire. Au 8e siècle, ils s'installent en Italie centrale, dans un territoire occupé par les Villanoviens. En fait, leur appartenance ethnique est loin d'être aussi certaine. Leur vocabulaire et leur structure linguistique n'appartiennent pas au monde indo-européen. Ils fondèrent Veii, Tarquina, Caere, Arezzo, Florence. Leur architecture se manifestera essentiellement dans les tombeaux, les cheveteri, à coupoles et les nécropoles. Au IVe siècle, ils se soumettront aux Romains qui conserveront de nombreux caractères de la civilisation étrusque, notamment dans la religion et dans la magie, où la pratique divinatoire tient une grande place. À l'exemple d'Inia, divinité principale, assimilée à Jupiter, Uni le fut à Junon, Ménia à Minerve et Velchan à Vulcain.
La République. La République à Rome, comme dans les cités grecques avant elle, se définit non par des frontières, un territoire, mais par les citoyens qui la composent. De même qu'Athènes, c'est avant tout les citoyens athéniens assemblés, Rome, c'est d'abord l'assemblée de tous les citoyens romains. Au IVe siècle, Rome se défend avec peine contre ses voisins du Latium. Avant le milieu du IIIe siècle, la petite cité est devenue un État puissant qui domine l'Italie. Vers 390, Rome est pillée par les Gaulois, mais vers 280, elle est maîtresse de l'Italie centrale. Vers 272, Tarente est soumise et Rome domine toute la péninsule italienne au sud de l'Arno. Les guerres puniques sont les trois guerres qui opposent Rome à Carthage, ville située sur l'actuel site de Tunis. Les Carthaginois sont appelés par les Romains puniques, d'où le nom de ces guerres. Voici leurs détails. 264 à 241 avant Jésus-Christ, c'est la première guerre punique. Rome gagne sur terre mais est vaincue sur mer avant de réorganiser sa flotte et de vaincre sur mer à son tour. Les Carthaginois sont conduits par le général Hamilcar. 219 à 202 avant Jésus-Christ. Seconde guerre punique. Hamilcar est remplacé par son fils Hannibal, qui inflige deux écrasantes défaites à Rome, celle du lac de Trasimène, au centre de l'Italie, le 21 juin 217, et celle de Cannes, en Apulie, le 2 août 216. Mais au lieu de marcher sur Rome, il passe l'hiver à Capoue. Nous en avons gardé l'expression « délices de Capoue » pour désigner un délassement et des plaisirs de nature à faire oublier le but fixé. Le général romain Scipion approche alors de Carthage, obligeant Hannibal à revenir en catastrophe. Hannibal est battu à Zama, près de Carthage, en 202. Exilé, amer, il se suicide en 183 avant Jésus-Christ.
Le saviez-vous ? Des éléphants dans les Alpes. Passant par la Gaule, Hannibal franchit les Alpes en 218 avant Jésus-Christ, avec ses troupes. 50 000 fantassins et 9 000 cavaliers, mais surtout avec plus de 200 éléphants de guerre. Ces pachydermes, plutôt pacifiques d'habitude, sont entraînés au combat par leur conducteur, le cornac, qui les enivre au besoin pour les rendre plus agressifs. Leurs défenses, recouvertes de métal, sont redoutables. Un seul problème. Sou, fou de colère, il arrive que les éléphants piétinent aussi les troupes qu'ils accompagnent. Une arme de dissuasion très massive, à manier avec beaucoup de précautions, en somme.
149 à 146 avant Jésus-Christ, c'est la troisième guerre punique. Rome assiège Carthage pendant 3 ans, puis la prend et la rase. Ainsi se concrétise le vœu le plus cher d'un sénateur célèbre, Caton l'Ancien, qui commençait tous ses discours par « Delenda Carthago », il faut détruire Carthage. 2 siècles plus tard, Rome domine tous les rivages de la mer qu'elle peut nommer Mare Nostrum, notre mer, c'est-à-dire la Méditerranée. Profondément transformée par ses conquêtes, Rome ne réussit pas à s'organiser en État aux dimensions de la Méditerranée. Le régime républicain d'autrefois ne fonctionne plus. Les ambitieux se disputent le pouvoir et achètent les suffrages. L'inégalité sociale s'est accrue, entraînant avec elle une période de crise. L'armée intervient de plus en plus dans le processus politique.